franceinter.fr.
Radioscopie. Radioscopie.
Charlotte Delbo.
Jacques Chancel. On ne peut pas oublier que c'était il y a 30 ans, dans un pays pas très lointain, dans un monde peuplé d'ombres grises, dans une ville que l'on ne connaissait pas alors, Auschwitz. Le nom cingle encore comme une cravache. Dans cette ville, des femmes, des déportés, des condamnés à mort pire, des condamnés à vivre. L'horreur des camps d'extermination, l'horreur s'estompera dans la légende, mais une femme se souvient encore d'autres femmes, et cette femme, c'est vous. Charlotte Delbo, 27 mois durant, vous avez vécu cet enfer et aujourd'hui, vous le portez au théâtre. 30 ans après, vous installez 22 femmes sur la scène pour rapporter les paroles de la nuit. De ce drame, vous faites un théâtre avec ce titre « Qui rapportera ces paroles ?» et ce titre est très beau. Et j'ai l'impression, Charlotte Delbo, qu'il fallait surtout que l'on n'oublie pas.
C'est plus que ne pas oublier, c'est vouloir porter à la conscience des faits qui doivent justement rester dans l'histoire et non pas seulement à l'état de légende maintenant, aujourd'hui, qu'on dispose de l'écriture. Car des massacres, l'humanité, l'histoire de l'humanité en est pleine, mais de nos jours, il fallait pour qu'elles arrivent à la conscience, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient portés au langage, qu'ils entrent comme un fait d'histoire, un fait de culture, bien que le mot culture ici semble tout à fait à côté. Alors, le porter à la scène, ça paraissait peut-être, en tout cas il y a si peu d'exemples où ça a été fait, ça devait paraître une entreprise difficile, et pourtant c'est celle qui m'est venue à l'esprit assez simplement parce que c'est à la scène qu'on entend les paroles proférées. Et dans la lecture, on est seul, on relit, on peut être touché par les mots.
On est moins atteint.
On est moins atteint, me semble-t-il. C'est-à-dire que dans la lecture, on a des mots et à la scène, on a des paroles.
Puis c'est le théâtre antique.
Et c'est peut-être aussi le théâtre antique. En tout cas, si on me faisait ce compliment, je le recevrais avec beaucoup, beaucoup de joie et d'étonnement.
Mais Charlotte Delbo, pourquoi avoir attendu si longtemps pour raconter cette histoire, l'installer sur la scène surtout, puisque vous avez déjà beaucoup écrit sur ces 27 mois terribles?
J'ai écrit tardivement, c'est-à-dire j'ai écrit très tôt. Et c'est une promesse que je m'étais faite quand j'étais là-bas. J'étais à Auschwitz et je disais, si je rentre, puisque, comme le dit l'un des personnages de la pièce, toutes les phrases commençaient par « si nous rentrons », si je rentre, j'écrirai un livre. Et j'en avais déjà le titre. C'était « Aucun de nous ne reviendra, un vers d'Apollinaire ». Et j'ajoutais à ma confidente, une camarade qui a fait toute sa déportation avec moi, nous sommes revenus ensemble, qui me dit, à qui je disais « si je rentre, j'écrirai un livre », sans savoir ce que je mettrai dedans d'ailleurs, et je le publierai dans 20 ans. Elle me disait « mais pourquoi dans 20 ans ?» Eh bien, je lui répondais que ce livre répond à tant et tant d'importance, serait peut-être la seule œuvre de ma vie, mais il fallait que ce fût une œuvre. Et que, pour m'assurer que c'en était une, il faudrait que je le revoie après l'avoir laissé de côté pendant 20 ans. Ce qui peut paraître un pari stupide, orgueilleux ou inutile. En même temps, j'avais des raisons qui étaient très, très prosaïques. Cette camarade disait, mais Écoute, pourquoi dans 20 ans? Car enfin, tu veux faire savoir ce qui s'est passé ici. Tu voudras le faire savoir. Il faudra commencer le plus vite possible. C'est très tôt qu'il faut le faire. Je lui ai dit, très tôt, les journalistes s'en chargeront. Et les journaux disparaissent. En outre, nous allons arriver dans un pays... Je m'étonne encore maintenant de la lucidité que j'avais. Nous allons arriver dans un pays qui aura été ravagé par la guerre, des gens qui auront été meurtris, qui auront subi des deuils, des bombardements, des privations, qui auront été très malheureux, et leur malheur, qui sera sans comparaison avec le nôtre, soyons, ayons au moins le... Il faudra bien l'admettre, leur malheur à eux est présent, le nôtre sera lointain. Et nous serons dans la situation de celui qui, mourant d'un cancer, essaie d'attirer l'attention de celui qui a une rage de dents. La rage de dents vous possède tant que vous ne faites pas attention à la voisine qui meurt du cancer. Parce que votre mal à vous présent est toujours plus vous aveugle et vous empêche d'écouter la plainte du proche.
C'était en effet une belle lucidité, parce que prévoir ça, cela à ce moment-là...
Je m'en étonne. Et alors, en effet, quand je suis arrivée, j'avais hâte de me décharger. Je suis rentrée, j'avais hâte de me décharger de ce livre dont je n'avais pas le moindre plan dans ma tête. Et aussitôt que j'étais en état de tenir debout et de tenir une plume, c'est-à-dire 6 mois après mon retour, j'ai écrit. C'était « Aucun de nous ne reviendra », le titre que j'avais décidé longtemps auparavant. Et je l'ai écrit d'une espèce de traite, dans une espèce d'état second, qui est celui d'ailleurs dans lequel j'écris généralement. Et sans faire de plan, sans savoir ce que j'allais dire, je suis arrivée au bout de ce livre en très peu de temps, et tel qu'il était, il m'a paru qu'il était bon. Alors je l'ai mise au net, mise au propre, tapée et rangée. Je l'ai emportée dans tous mes voyages, j'ai beaucoup voyagé dans l'intervalle, et en effet, 20 ans après, je l'ai proposée à un éditeur.
Mais pour vous, c'était les paroles de vie des camps de la mort. C'était ce qui vous faisait surmonter tout le reste. Parler.
Oui, parler. Parler était important.
Dialoguer.
Parler est important parce que c'est vraiment la preuve que vous existez. J'étais très malheureuse pendant un certain temps où j'ai eu soif. Une soif si atroce que je n'avais plus de salive dans la bouche. Et quand on n'a pas de salive dans la bouche, on ne peut pas parler. Eh bien, j'ai cru devenir folle, là. Et sans mes camarades, je serais certainement morte. Parce que je ne parlais pas. Je ne pouvais pas répondre.
Mais comment est acceptée cette pièce qui rapportera ces paroles au Théâtre Cyrano?
Bien, jusqu'à présent, nous n'avons eu que de merveilleuses critiques.
Alors, Delbo, le théâtre ne vous est pas étranger. Vous avez été la secrétaire de Louis Jouvet, donc c'est un prolongement de ce que vous faisiez à un certain moment.
Je ne savais pas, quand je suis devenue par hasard la secrétaire de Louis Jouvet, que ce que j'apprendrais avec lui me servirait un jour à devenir auteur dramatique. Je suis très triste qu'il ne soit pas là pour le voir. J'ai appris beaucoup avec lui et beaucoup au théâtre.
Mais étant la secrétaire de Louis Jouvet, vous étiez tentée de monter sur la scène, vous, de faire du théâtre ou de devenir auteur dramatique?
Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai commencé à écrire des romans quand j'avais 15 ans. Dieu merci, tout a disparu quand j'ai été arrêtée et je n'ai plus rien retrouvé de mes vieux trucs. Parce que peut-être que maintenant j'en aurai un peu honte. Mais non, quand j'ai rencontré Louis Jouvet encore une fois par hasard, puisque j'allais l'interviewer pour un petit journal d'étudiants comme font tous les groupes d'étudiants de philo, eh bien, il m'a demandé ce que vous intéressez au théâtre. Oui, certes, j'allais toujours dans les places à 4 francs tout là-haut. Et... est-ce que vous avez songé à faire du théâtre? J'ai dit, moi, non, jamais. Jamais. Ça ne m'était jamais venu à l'idée. Et quand j'étudiais la philosophie, il me dit, mais ça vous intéresse, la philosophie? J'ai dit, oui, mais ça me passionnait. Trop d'idées, a-t-il dit. En effet, le théâtre m'a passionné beaucoup plus encore.
Il y a toujours une légende, et aujourd'hui encore, qui encercle Jouvet. Quel homme était-il?
Oh, c'est très difficile à dire en quelques paroles. Je ne sais jamais répondre à cette question. Pour moi... je vais refaire un portrait terrible parce que je suis assez... bon, le fait que j'étais à Auschwitz, pas pour rien. Je n'ai pas été arrêtée par hasard, j'étais dans la résistance. Donc, je suis quelqu'un d'assez brave. Eh bien, et je n'ai jamais eu peur ni des gendarmes ni de quoi que ce soit, mais j'ai toujours eu peur de Jouvet. Alors, quand je suis rentrée, je lui ai dit... eh bien, savez-vous, je disais quand j'étais là-bas, si je rentre, je n'aurai plus peur de Jouvet. Il en a pleuré.
Louis Jouvet est au centre de votre vie.
Et très impressionnant pour tout le monde, alors que c'était un homme extrêmement bon, qui perçait les gens un jour, il avait un regard d'une perspicacité extraordinaire. Il savait, à la façon dont on marchait pour entrer dans son bureau, pourtant couvert d'une bonne moquette, il disait « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas aujourd'hui ?» À la démarche, il savait.
Mais vous le connaissez si bien, ce Louis Jouvet, que vous savez ce qu'il aurait pensé de la pièce que vous présentez. Vous pouvez l'imaginer.
Non, je n'oserais pas dire. Je n'oserais pas dire, parce que j'aurais peur d'avoir beaucoup de prétentions. Je ne sais pas.
Vous êtes forcément marqué par cette épreuve, car on n'en sort plus de tout cela.
Eh bien, je crois, au contraire, que j'en suis sortie.
27 mois dans un camp d'extermination, car alors, le camp de concentration, je crois que c'est pas assez dire.
Oui, alors je n'étais que 5 mois dans le camp d'extermination, Birkenau. Et c'est déjà un record. C'est vraiment un record.
Oui, encore faudrait-il s'entendre sur les mots, camp d'extermination, camp de concentration, on mourait partout.
Oui, on mourait partout, accéléré dans le cas de Birkenau. Enfin, j'ai été 27 mois en déportation, c'est vrai, après avoir fait 10 mois de prison en France auparavant. Ça me fait une très longue absence. Que ma vie en ait été modifiée, je ne sais pas. En tout cas, le contenu de mes écrits, certainement. Que je le porte encore, eh bien, vous voyez, c'est une question à laquelle il semblerait très insolent ou très prétentieux de répondre comme je vais le faire. Je ne crois pas être le porter. Peut-être que, en l'écrivant, je le projette hors de moi.
Vous vous en délivrez en l'écrivant.
Peut-être que c'est cela.
Mais vous vous emprisonnez aussi en même temps.
Non.
Se délivrer et s'emprisonner.
Non. Regardez, quand on a commencé à répéter ma pièce, eh bien, les comédiennes étaient pour faire la distribution, le metteur en scène, François Darbon, invitait les comédiennes à venir, on leur passait une brochure et elles lisaient le rôle ou la scène pour lesquelles on les pressentait. Et alors là, j'avais une peur épouvantable. J'avais un trac. Parce que mes mots, quand je les écris, je les entends dans ma tête. Mais les entendre par une autre bouche, avec une autre voix, j'avais peur que tout à coup, ils me paraissent horribles et qu'ils me touchent trop. Eh bien, pas du tout. C'était déjà en dehors de moi-même. C'était projeté devant moi. Et j'ai assisté aux répétitions de ma pièce comme avec, beaucoup de sang-froid.
Quelle musique avez-vous donnée à cette pièce? Il fallait une musique pour accompagner ces 22 femmes habillées de gris.
Oui, je voulais une musique. J'y tenais beaucoup. D'abord parce que pour moi, la musique, le décor, ça fait partie d'un spectacle, c'est plus beau. Et puis, il me semblait aussi que il y avait, quand nous sommes descendus du train, quand on a ouvert les portières des wagons à Auschwitz, nous avons une impression si terrible, si forte, devant cette plaine de neige, c'était au mois de janvier, cette plaine de neige, toute nue, ce paysage désolé à l'infini, une impression si forte que je me suis dit que dans la pièce, il n'y aurait que de la musique qui pourrait donner aux spectateurs, évidemment, à un moindre degré, mais tout de même, cette impression-là. Alors, j'ai pensé à de la musique, je ne savais laquelle, et c'est là qu'un de mes amis m'a passé un disque d'Alain Kremski, Paysage métaphysique. J'ai écouté ce disque, mais j'ai dit, mais c'est lui.
C'était la rencontre.
Alors, je ne savais pas qui il était, il se trouve que c'est un jeune compositeur, il a une trentaine d'années, et faute de mieux, je me serais bien servi de son disque en lui demandant d'en faire quelque arrangement, mais j'ai préféré qu'il fasse une musique originale, il l'a faite, et je crois qu'il a très très bien compris ce que je voulais. J'aime beaucoup sa musique, beaucoup.
Charlotte Delbault, nous allons renouveler cette rencontre, c'est-à-dire que nous allons écouter cette musique, ces paysages métaphysiques d'Alain Kremski. Comme ça, nous nous remettrons complètement...
Le numéro 5. La plage 5.
Thank you.
Charlotte Delbault, il y a ce départ de Compiègne et cette image qui pour moi est encore présente telle que vous la racontez. Vous êtes debout sur les camions, vous êtes 230 et vous criez et vous dites à tous les gens qui passent, les uns vont promener leurs chiens, les autres vont peut-être à la messe, il est très tôt le matin, il ne fait pas très chaud. Et vous dites, vous, debout sur les camions, tout, nous sommes des Françaises, des prisonniers politiques, nous sommes déportés en Allemagne. Il n'y a pas un œil qui regarde, pas un visage qui se détourne.
Les gens étaient apeurés.
Apeurés, c'est la peur.
Mais c'est même...
Ça n'est en aucun cas la lâcheté, c'est autre chose.
Je ne le crois pas parce que, imaginez-vous que je me suis trouvée dans une situation semblable à celle de ces gens-là. Lorsque j'étais en Grèce, en 1949, il y avait eu la guerre civile en Grèce, et la guerre civile qui s'est terminée par l'échec des guérilleros, et on en a donc fait prisonnier le gouvernement grec déjà en avait attrapé beaucoup. Et un jour, je me trouvais à Nauplie, où je me promenais, en somme, où je faisais du tourisme. Et il y avait tout un convoi d'hommes barbus, enfin, qui ne s'étaient pas lavés, qui étaient sales, qui avaient couché tout habillés sans doute, et qui on embarquait sur un cargo. Je me suis informée pour savoir, il y avait des gardes, des gendarmes, enfin des soldats. Je me suis informée et on m'a dit que c'était des gens qu'on déportait à l'île de Missolonghi. Macronissos. Eh bien, moi, j'ai été là, je les ai regardés, et puis je n'ai rien fait pour eux. Que pouvais-je faire? Et j'ai eu honte, et j'ai compris, les gens qui accompagnent
ne
nous regardaient pas. Peut-être avaient-ils honte, et peut-être avaient-ils peur, et peut-être étaient-ils désarmés en songeant que faire.
Vous comprenez la peur qui peut conduire à la trahison?
Sans doute, si on n'envisage pas le moyen de se défendre en s'organisant avec d'autres et en ayant quelques ressources, sans doute. Mais si on est seul en face de la Gestapo, en face d'armes, quel courage peut-on avoir? Celui de se sacrifier héroïquement, c'est tout.
Vous étiez héroïque à ce moment-là? Vous le saviez?
Ça veut dire je crois que ça n'a pas de sens. Non, je crois que le...
Vous étiez malheureuse. Même pas.
Vous parlez de quel moment?
Le moment où vous partiez de Compiègne.
Ah non,
Parce que vous chantiez.
Ah, nous avons chanté naturellement les chants patriotiques, etc. C'est un peu pour se donner du courage, puis un peu surtout pour agiter un drapeau et faire savoir qui nous étions.
Par bravade.
Par bravade aussi, mais je crois que nous ne savions pas ce qui nous attendait. Alors, nous n'avions aucun mérite à n'avoir pas plus peur que ça.
Vous n'imaginiez pas du tout ce qui pouvait se passer. On ne pouvait pas savoir.
Non, parce que nous...
1943, on ne savait pas.
Non. D'autant que ce qu'on savait sur la déportation, c'était les livres de Dostoïevski, c'était la déportation en Sibérie. Moi, j'étais jeune, j'étais en pleine santé, j'avais fait de la course à pied, du tennis, de la natation. J'étais bien musclée. Et je me disais, on va nous faire casser des cailloux, abattre des arbres, n'importe quoi. Pas une affaire.
Vous pensiez toutes que vous reviendriez?
Oh oui, on pensait qu'on allait travailler, puis quoi, on serait mené à la dure, on recevrait un coup de bâton de temps en temps, et puis, on supporterait qu'on était prêt à tout affronter.
Charlotte Delbault, il y a les chiffres, vous étiez 230, comme je le précisais à l'instant, dans ce train qui partait de Compiègne. Il y a eu 27 mois de déportation, c'est quand même beaucoup, et vous êtes seulement 49 à être revenu de ce groupe de 230.
Oui.
Et vous étiez issu de toutes les classes sociales.
Oui.
Alors justement, comment cela se passait à ce plan-là? Est-ce que là-bas, à Auschwitz, malgré que vous soyez dans une communauté malheureuse, les classes sociales revenaient-elles?
Ah non, pas du tout.
À aucun moment.
Non, nous
Parce
avons formé un groupe.
En 27 mois, il se passe des choses.
Non, nous avons formé un groupe extrêmement compact, extrêmement solide, extrêmement serré, les unes contre les autres. Et nous pouvons nous enorgueillir d'avoir le chiffre de rescapés le plus élevé de tous les convois qui sont passés par Auschwitz. 49 sur 230, c'est un record. Parce que nous sommes aidés constamment. Et vraiment, sans aucune défaillance. Nous avons formé une espèce de corps entier qui était toujours aux aguets, toujours en éveil, toujours prêt à aider. Alors, comme tout le monde n'était pas malade, mourant en même temps, évidemment, on pouvait s'aider.
Vous dites que dans ce train, il y avait des femmes combattantes qui avaient été prises les armes à la main, il y avait des femmes qui avaient été prises sans armes, il y avait des femmes qui avaient été dénoncées, vous avez même cette autre phrase, il y avait même des femmes qui avaient dénoncé, qui étaient des dénonciatrices.
Oui.
Quelles femmes alors, comment est... vous les connaissiez celles-là?
Non, nous ne les connaissions pas, nous avons fait leur connaissance quand, quand tout ça a été jeté à Romainville pour être passé par Compiègne et arriver à Auschwitz. Mais lorsque nous sommes arrivés sur place, nous n'avons pas mis à l'écart, pas du tout. Et il y en a qui sont mortes très très vite, nous avons à peine eu le temps de les connaître, et justement parmi celles-là. Mais sinon, de toute façon, c'était... Elles étaient là, elles étaient dans le groupe.
Mais Charlotte Delbault, vous me dites que vous ne pouviez pas prévoir ce qui allait se passer, mais vous l'avez quand même pressenti très vite, parce que d'abord il y avait ce train, vous étiez très nombreuses dans un même wagon, ce n'était pas facile, puis il y avait cette arrivée à Auschwitz, et déjà vous avez vu les colonnes de femmes qui montaient, qui redescendaient, vous avez enjambé des cadavres, là à ce moment-là vous imaginiez.
Oui, à ce moment-là nous imaginions, mais tout de même, nous avions une force que donne la jeunesse, l'optimisme que donne l'habitude du combat, qui fait que lorsque nous sommes passés à l'étuvage et qu'on nous a déshabillés, tondus, bon, et numérotés, eh bien, parmi les femmes qui étaient là, certaines des prisonnières d'ailleurs, surveillées par des SS et qui faisaient le travail à l'arrivée, eh bien, il y en a une qui nous dit « Combien êtes-vous ? 230 ?»« Oh !» Vous ne serez plus sans la semaine prochaine. Or, nous sommes dit, celle-là, elle est payée pour nous démoraliser. Qu'est-ce qu'elle veut dire? On dit, pourquoi? On va nous tuer? Elle me dit, non, mais on meurt. On meurt? On meurt comment? Comme ça? Oui, à cause de l'appel. Oh. Alors, pourquoi est-ce qu'on meurt à cause de l'appel? Bah, parce qu'on reste debout pendant 5 heures, tous les jours, le matin, et puis 2 ou 3 heures le soir.
Et parfois toute la journée.
Et parfois toute la journée. Alors nous qui étions solides, une qui était coiffeuse, je me rappelle, à côté de moi, dit « Ben moi je travaille debout toute la journée, je peux bien rester debout. » Ah ben oui, mais ça n'était pas pareil.
Mais les autres femmes qui sont revenues sont-elles aussi fortes que vous pour accepter tout ce qui s'est passé? Car vous le racontez d'une manière très simple, très froide, vous en êtes délivrée, on
oui,
le sent
je
vite.
Crois. Je crois m'en être délivrée.
Mais les autres ne sont pas dans votre cas?
Non,
toutes les autres.
Non, peut-être, sans doute que non. Sans doute que non. Il y en a qui sont infiniment plus marqués, mais je ne sais pas pourquoi.
Vous seriez passé de cette expérience, Charlotte Delbault, mais peut-être êtes-vous devenue une autre femme? Êtes-vous devenue meilleure?
Oh, je ne crois pas qu'on devienne meilleure. Non, je ne crois pas.
On devient plus tolérant, au contraire, on atteint au sommet de la haine.
De la haine envers qui?
Bon, par exemple, ceux qui vous ont fait subir toutes ces atrocités.
Oh oui, mais je ne peux pas haïr abstraitement ceux, haïr en général tous les nazis. Bah, c'est un être abstrait, tous les nazis. C'est pas quelque chose que je touche. Maintenant, un en particulier, bah, il se trouve que je les ai pas sous la main. Je sais pas ce que je ferais si j'en avais un sous la main.
Si vous rencontriez par exemple une de ces femmes...
Mais je ne la reconnaîtrais plus maintenant.
Qui vous gardait, vous la reconnaîtriez pas?
Mais non, écoutez, maintenant elle a divinement changé. Peut-être si je passais à côté de l'un ou l'autre. Et alors maintenant, si je rencontre un jeune Allemand de 25 ou 30 ans...
Il n'y est pour rien.
Il est malheureux. Non, je ne crois pas avoir d'aptitude à la haine. Je suis bien capable de me mettre en colère et de tomber sur quelqu'un. Mais la haine, non. Non, je ne crois pas.
Et vous pouvez pardonner à ceux qui vous ont fait mal?
Ben, ça n'est pas pardonner, non plus. Pour pardonner, il faut n'avoir aucun... Comment dirais-je? Pardonner, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à me dire ça. Pardonner, non. Je n'oublie pas et en même temps, j'oublie. Alors, je n'ai pas de mérite à pardonner puisque j'oublie. Mais en même temps, je n'oublie pas parce que c'est quelque chose qui ne me fait plus mal. C'est la plaie sur laquelle on appuie, mais qui ne fait plus mal. Mais c'est tout de même la plaie, elle est là. Et si vous voulez que je vous raconte par le menu tout ce qui est arrivé, je peux le faire sans une défaillance de mémoire. Seulement, je ne sais plus si c'est moi ou quelqu'un d'autre. Je ne sens plus que c'est moi.
Il est important, je crois, que l'on en parle, parce que, non pas qu'on l'oublie, mais certains pourraient ne pas le savoir.
Disons que moi, j'aurais oublié dans la sensibilité, puisque je vous dis que ça ne fait plus mal, mais en même temps, j'ai le souci que ça ne s'oublie pas, et c'est la raison pour laquelle j'écris.
Vous auriez pu tenir, vous êtes resté 27 mois, vous auriez pu tenir plus longtemps encore.
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois que c'était
la dernière limite.
Je crois que c'était la limite.
Et vous le saviez?
Oh oui. Oh oui, tout à fait. Oh oui, certainement.
Il y a cette phrase que vous avez empruntée à Giraudoux. Voici comment tout s'est passé et jamais je n'invente. Tout cela parce qu'on peut penser que ce n'est pas croyable.
Oui, mais je n'invente pas. Je n'invente pas, je transpose. Par l'écriture poétique, par l'écriture dramatique, mais je n'invente pas.
Je disais au début de ces entretiens que vous étiez condamné à mort, et même pire, condamné à vivre. Car c'était condamné à vivre, en fait.
Oui.
Celle qui mourait, c'était peut-être une fuite, une évasion, une chance.
Quelquefois, c'était une chance. Mais évidemment, quand on a passé tout ce mauvais moment, ben on se dit quand même que c'était une chance de rentrer.
Mais parfois, lorsque vous pensez à toutes ces choses, et j'imagine que vous y pensez, parce que vous êtes libéré, d'accord, mais vous devez penser à ce qu'était, par exemple, une journée à Auschwitz. Ça commençait comment? Ça se terminait comment?
Ah oui, ça je le sais très bien.
C'était comment une journée?
Ça commençait par le branle-bas de réveil, et puis la sortie de la baraque dans le froid épouvantable, et puis ne pas se laver pendant de la journée et le lendemain, et être debout à l'appel dans la bousculade, les coups et voir les gens tomber et mourir, et puis se traîner, dès qu'il faisait jour, se traîner vers les marais, attraper des outils, travailler aux marais, un travail qui était plutôt pour nous faire mourir que pour être productif, parce que quatre terrassiers bien bottés et bien outillés auraient eu plus de rendement que 200 femmes qui tenaient à peine debout et qui n'avaient jamais manié de pelle de leur vie et qui étaient mal chaussées dans la boue. Alors, bon, puis à midi, on faisait la queue avec sa gamelle pour recevoir une louche de soupe, et puis on retournait au travail, et puis le soir, il fallait se mettre en rang, on comptait les rangs, puis rentrer, puis de nouveau l'appel, et puis faire la queue devant la baraque pour entrer, recevoir son morceau de pain et sa ration de liquide.
De n'importe quoi.
Qu'on appelait du thé, mais qui n'était ni thé ni rien, enfin qui était tiédasse. Et puis se coucher sur des planches sans s'être déshabillé, ni lavé, ni rien. Alors bientôt, il y a eu les poux et puis les rangs qui se rétrécissaient. La place que nous occupions dans la baraque de plus en plus petite.
Vous savez le prix des choses maintenant, c'est-à-dire le prix de l'eau, le prix d'un pain, et puis le prix également des chaussures, parce que longtemps vous avez couché avec vos chaussures sous la tête pour qu'on ne les vole pas.
Eh bien non, imaginez, non.
Non.
Eh bien ça, c'est la preuve que je suis rentrée.
Oui.
Et tout le temps que j'étais là-bas, je pensais, je veux rentrer, mais si je rentre, je veux rentrer entière. Je ne veux pas laisser ma mémoire, je ne veux laisser ni ma tête, ni mes facultés intellectuelles, ni mes membres. Alors, parce que si je dois rentrer pour aller passer 2 ans dans un sana, ah non, alors, je préfère mourir d'abord. Mourir ici, ce n'est pas la peine de lutter. Et je me rappelle très bien une de mes camarades qui disait, quand je pense qu'il m'est arrivé de jeter du pain, je lui ai dit, eh bien moi, je serai rentrée le jour où je jetterai un éclair au chocolat.
Vous ne voulez donner aucune leçon, parce qu'on revient à cette pièce, puisque cette pièce, c'est votre vie qui rapportera ces paroles. Ça n'est pas une leçon que vous voulez donner.
Je ne crois pas. Je ne voudrais pas que ce soit appris ainsi. Parce que, non, pourquoi est-ce qu'on peut donner des leçons, d'ailleurs?
Je pose la question.
Je ne sais pas, je n'y ai pas songé. Je n'y ai pas songé et je suis en peine d'y répondre.
Était-il injuste que vous soyez choisi, vous, et d'autres comme vous, alors que d'autres passaient à côté?
Qu'entendez-vous, choisi par qui?
Choisi par le malheur, choisi à Compiègne pour partir.
Oh, bah alors là, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. C'est toujours pareil, pourquoi elle est morte et pas moi? Pourquoi Viva, qui était aussi solide que moi, est-elle pas rentrée et moi je le suis? Ce sont les mystères impénétrables.
Il vous arrive, Charlotte Delbo, d'en parler avec des amis, d'en parler avec des jeunes, de recommencer cet itinéraire malheureux?
Si on me questionne, si on est intéressé, je réponds, parce que...
Est-on intéressé?
Je trouve. Mais quant à ressasser et répéter, je crois que je ne le fais pas. Il me semble que non. Non.
Mais c'est la date importante de votre vie. Ce sont les 27 mois qui auront compté le plus. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Là, ça serait mentir que de dire que ça n'est pas un moment extraordinaire et, de la vie. Mais ce qui serait triste, ce serait que ce fût le seul. Or, il y a bien d'autres choses importantes depuis, les livres, pour moi, les livres que j'ai écrits et ma pièce.
Puis, ce qui est important aussi, c'est de savoir comment on revient, dans quel état on revient, état d'esprit.
Oui, parce que revenir pour faire la leçon aux autres, ben, on est bientôt... On devient bientôt très ennuyeux et... Hein?
On revient pour être heureux?
Pour être heureux? Peut-être pour attraper un goût du bonheur, si c'est possible. Pour jouir de la vie, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais...
Pour créer une famille?
Beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait. Beaucoup de filles sont rentrées, se sont mariées ou remariées et ont eu des enfants. C'était en effet leur...
Pas vous?
Non, pas moi.
Ça n'est pas une solitude.
Encore une question difficile, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses.
Vous préférez le théâtre?
Je préfère le théâtre.
Vous préférez l'écriture?
Oui.
Et chaque soir, en ce moment, sur la scène du Cyrano, lorsque vous voyez ces 22 femmes qui se suivent en gris, avez-vous mal?
Non.
Non.
Non, je regarde si elles jouent bien.
C'est déjà alors le théâtre antique.
Je regarde si elles jouent bien, je regarde si elles disent bien leur texte, j'écoute si elles disent bien leur texte. Si elles ne me sautent pas une réplique, je suis l'auteur dramatique ordinaire.
Jean Delbault, lorsque vous étiez au départ 230 à Auschwitz et qu'il n'y avait pas d'hommes, cela représentait un problème?
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Vous étiez entre femmes, il n'y avait que des femmes.
Oui.
Auriez-vous souhaité la présence d'hommes à ce moment-là, de prisonniers, comme vous, de déportés hommes?
Mais nous les voyons et ça nous crevait le cœur parce que les femmes sont naturellement maternelles. Alors de voir des hommes battus, maltraités, ça nous faisait infiniment de peine et nous avions pitié d'eux. Et réciproquement, nous l'avons appris au retour, eux, de voir les femmes maltraitées, ça leur faisait pitié et peine. Mais nous nous voyions, nous nous croisions sur les chemins. Nous ne nous connaissions pas. Nous ne fréquentions pas.
Vous avez peut-être eu peur d'avoir des enfants qui connaîtraient ce même douloureux chemin.
Moi?
Oui. Ah. J'ai parlé souvent avec des femmes comme vous.
Oui.
Et elles me disaient cela, elles me disaient... Peur que ça recommence. Étaient plus marquées que vous, c'est-à-dire que peut-être vous avez cette liberté, ce choix que vous avez fait de la vie, et puis également vous avez des tas d'idées, vous avez envie de faire des tas de choses.
Oui.
Et vous êtes mieux délivré que les autres. Mais d'autres avaient peur. Et si ça recommençait?
C'est une question, en effet, qu'on peut se poser, elle, cette fois-ci, sans ambiguïté, parce qu'on voit bien que ça existe ailleurs, peut-être pas à la même échelle. Mais enfin, ce qui a eu lieu peut encore avoir lieu. Alors.
Je sais bien qu'avec votre pièce, Charles Delbault, vous n'avez pas voulu donner une leçon, vous n'avez pas voulu prouver quelque chose, mais vous avez eu quand même une idée. Ça n'était pas seulement le fait de rappeler des souvenirs.
Ah non, sans doute pas. C'est pas une affaire de souvenirs. C'est plus que ça.
Je ne dis pas de mauvais souvenirs, je dis une époque.
Non, c'est plus que ça, il me semble. C'est en vérité... porter au langage, c'est-à-dire faire entrer le fait historique dans l'histoire et dans la conscience des
L'enlever de la légende.
Pour faire que ce soit une chose qu'on puisse savoir. Et en même temps, j'avais le souci, enfin, j'espère y avoir réussi, c'est surtout ça, faire une belle œuvre. Parce que une affaire aussi extraordinaire, un événement aussi extraordinaire, ne devrait pas inspirer d'œuvres médiocres. Alors c'est là que vous voyez ma grande prétention.
Charles Delbault, vous savez que maintenant, c'est-à-dire 30 ans après, on raconte beaucoup ces événements au cinéma, dans les livres. Et peut-être avez-vous vu le film de Louis Malle, La Combe Lucien?
Non, je ne l'ai pas vu.
Vous comprenez que, à ce moment difficile de 40-44, certains... et pu prendre ce qu'on appelle aujourd'hui le mauvais chemin, c'est-à-dire la LVF, la milice, la collaboration, vous, dans la position où vous avez été.
Dans le cas d'un adolescent, on peut évidemment tout comprendre, parce que tout dépend de... ils sont influençables, les garçons et filles, enfin les jeunes gens sont influençables, et je crois qu'un adolescent même criminel, même s'il fait un crime, n'est pas un criminel. Il doit toujours être, on doit toujours pouvoir le reprendre, il me semble. Parce que c'est un moment difficile et que l'adolescence, c'est là où on a ce monde en face de soi qu'on croit facile et qui en même temps est un obstacle terrible, où on voudrait de la liberté et puis il faut se plier à des règles et à des lois. Et je ne crois pas qu'on puisse traiter de criminel un jeune homme qui prend ce que j'appelle en effet le mauvais chemin, puisque c'était le chemin de la barbarie. Oui, ça peut s'admettre.
Vous aviez quel âge à Auschwitz ?
25 ans.
C'était la jeunesse.
La jeunesse, oui.
27 mois gâchés.
Non, c'est pas gâché. Non, c'est pas gâché, puisque je suis revenue. Voilà. Ce que j'ai appris là. Mais personne ne l'apprendra. J'ai payé cher. Mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai appris, j'ai vu le courage, j'ai vu la bonté, j'ai vu la générosité, j'ai vu ce que les autres ont fait pour moi. Celles qui m'ont porté, celles qui m'ont aidé, celles qui m'ont donné à boire quand j'avais soif, celles qui se sont privées de leur pain pour obtenir un verre de boisson pour moi, alors que je mourais de soif. Alors, vous savez, ça donne en même temps une très grande confiance dans son semblable.
Vous vous retrouvez parfois ?
Avec mes camarades ?
Oui.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, c'est un peu comme des frères et sœurs, vous voyez. Qu'on se voit ou qu'on ne se voit pas, c'est toujours... Nous sommes tout de suite de plein pied.
Vous parlez du train du 24 janvier 43
jamais.
Ou vous parlez d'autre chose ?
Jamais. Mais non, puisque nous en savons tout autant. Alors nous n'avons rien à nous apprendre.
Nous allons prendre une deuxième pause musicale. Vous avez choisi Béla Bartok. Il y aura sûrement y avoir encore une raison. Plein air.
Oui, il y a une raison parce que... D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un grand écart entre Kremski, musicien, compositeur d'une trentaine d'années, musique d'aujourd'hui, et Bartok. Il y a un grand espace de temps parce que j'ai été, jusqu'à la rencontre avec Kremski, je crois que mon goût pour la musique s'arrêtait à Bartok. C'était le musicien le plus moderne pour moi. Les autres, là, je n'ai pas très bien suivi. Je dois dire que j'ai un manque, là, sûrement. Et alors, j'aime beaucoup ce plein air parce que c'est à la fois mystérieux, c'est nocturne, ce sont les bruits de la nuit, et en même temps, un peu aussi, les peurs de la nuit.
La nuit, quoi.
Je n'ai pas beaucoup peur le jour, mais il peut arriver d'avoir peur la nuit.
17h51, mon invité Charlotte Delbo et cette musique que vous avez choisie de Béla Bartok. Nous parlons donc de cette période de 1943, 27 mois à Auschwitz. Et il y a ce bel optimisme que vous avez. On comprend que vous êtes libéré de toutes ces choses sombres, ces choses grises d'alors. Mais il y a quand même ce titre que vous avez emprunté, mais qui n'en existe pas moins, « Aucun de nous ne reviendra ». Alors là, c'est quand même le dialogue de la mort.
Oui, c'est ce qu'on est, c'est ce que j'ai éprouvé et ce que je crois chacun a éprouvé en arrivant là-bas. C'est dit « Aucun de nous ne reviendra ». Et En effet, là, il n'y a pas d'optimisme, parce qu'en plus, je dis aucun de nous n'aurait dû revenir, ce qui peut être interprété comme phrase finale, ce qui peut être interprété de différentes manières. Mais en effet, je voulais rendre ces circonstances abominables, inimaginables. Aucun animal n'en serait revenu. Et il se trouve que quelques-uns sont revenus, parmi lesquels moi. Mais les conditions étaient telles qu'en effet, il y avait tout à parier qu'aucun n'en reviendrait.
Alors on peut se poser cette question à ce moment-là. Suis-je un animal ? Cette question, vous...
Non, justement.
Non,
c'est là qu'on a vu.
Suis-je une femme ?
C'est là qu'on a vu que l'être humain ne devient jamais,
jamais
un animal.
Résiste.
Résiste,
oui,
parce qu'il a dans la tête.
Oui.
Et c'est là que la parole est venue au secours de la vie. Parce les réserves qu'on a dans la tête, se réciter des poèmes, se rappeler des choses, en parler, c'est le réconfort, une parole. C'est la preuve que vous avez encore votre tête, donc que vous êtes encore cet être-là, et que vous n'êtes pas encore anéanti.
Oui, mais Charlotte Delbault, on peut ne pas attendre la mort. Et c'est le courage, c'est la décision, c'est la lucidité, c'est la volonté. Mais on peut également ne pas attendre la mort, et ça peut vouloir dire, on se suicide.
C'est arrivé évidemment, pas dans
Car
notre groupe.
Car il y a l'acte décidé, et puis...
Oui, oui, c'est arrivé évidemment, pas dans notre groupe.
Il sort voulu.
Mais c'est ce à quoi j'ai pensé en premier lieu. Quand je suis arrivée, je dis, pas moyen de sortir d'ici, autant s'épargner la souffrance. C'est vraiment ce que j'ai éprouvé.
Mais à ce moment-là, on peut voir plus loin que sa propre mort. Est-ce qu'il y avait des jeunes avec vous, des plus jeunes que
ah
vous
oui, bien
Vous aviez
sûr.
25 ans, mais...
Ah oui, ben, il y avait 16 ans, 17 ans. Oui, oui. Il y avait
mais enlevé, pourquoi
petit... Comment
Pourquoi enlevé à 16 ans
Eh bien, à 16 ans, il y avait une petite qui, par exemple, portait des messages dans sa serviette d'écolière pour le groupe de francs-tireurs où était sa sœur et le fiancé de sa sœur. Et comme c'était une gamine... qui n'avait pas 16 ans, elle a eu 16 ans à la santé, eh bien, on pensait qu'on ne la soupçonnerait pas, qu'elle passerait entre les mailles, et puis elle a été arrêtée, bon, ben tant pis, en route.
Mais vous saviez à ce moment-là qu'il y avait d'autres camps, des camps d'extermination pour les Juifs, par exemple ?
Non.
Vous étiez ignorante de tout cela ?
Ah oui, ça ne se savait pas, en France, en 1943.
Non, mais après, là-bas ?
Une fois là-bas, à Auschwitz, quand nous... Ah oui, alors là, nous avons vu, évidemment, les chambres à gaz et les fours crématoires, bien sûr. Mais avant, non. Nous croyions aller dans un camp où on nous ferait travailler. Durement, mais avec la santé que nous avions, nous pensions nous en tirer.
Et puis vous aviez une hantise, vous disiez toutes, l'une doit revenir, elle doit revenir surtout pour parler.
Oui.
Et on en revient toujours à cette chose essentielle, la parole.
Oui, c'est vrai.
Qui rapportera ces paroles ? Vous les avez rapportées d'ailleurs. Et j'ai l'impression, Charlotte Delbault, c'est une victoire, mais qui vient de loin. Alors il faut la mériter, d'accord, mais c'est bien de le dire 30 ans après. Non ?
Oui, 30 ans après, bien, comme ça. Il se trouve que ben, j'ai vécu assez longtemps pour attendre 30 ans. Quelle chance.
Mais vous auriez pu ne pas vous réinsérer, comme on le dit, mot réinsertion dans la société. Ça aurait pu être difficile, car il y avait le départ, il y avait les 27 mois dans le camp d'Auschwitz, puis il y avait l'évacuation, et puis il y avait le retour, et on ne sait jamais comment on revient, qui on va retrouver, et comment ça va se passer.
Ah oui, mais heureusement, j'ai retrouvé Jouvet.
Ah, vous avez retrouvé Jouvet.
Ah ben oui,
Jouvet. Louis Jouvet était là, votre retour.
Jouvet était rentré d'Amérique du Sud, de sa tournée. Et il était là, et aussitôt, j'ai commencé à travailler au théâtre, et j'étais à la Générale de la Folle de Chaillot en décembre 1945.
C'est-à-dire combien de temps après votre
retour ? 6 mois après mon retour.
Et déjà en forme, déjà...
Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, il m'a fallu... Après, je suis partie. Je suis partie me reposer en Suisse, et je suis allée dans une maison de repos, parce qu'il m'a fallu vraiment 2 ans pour me remettre. Mais je crois que c'est parce que je me suis... J'ai été très bien soignée pendant ces 2 ans-là que j'ai retrouvé ma santé, en vérité.
Charlotte Delbault, nous sommes convenus de croire que l'écriture, les paroles et même l'artifice théâtral ne peuvent pas transmettre ce que véritablement vous avez vécu. C'est une question que vous avez dû vous poser. Dois-je écrire ? Dois-je parler ? Dois-je monter mon aventure sur une scène ?
Premièrement, ça n'est pas mon aventure parce qu'elle est...
Notre aventure,
elle
mais
est devenue
elle vous
extérieure,
est à chacune personnelle.
Elle est devenue extérieure, elle est transposée. Alors ça n'est déjà plus personnel. Et ensuite, moi j'ai une grande foi dans la parole et la communication. Je suis peut-être un peu démodée, mais je ne crois pas à l'incommunicable. Je crois que les mots ont une force qui leur permet de toucher les gens au cœur. Et je crois que les gens qui vont voir la pièce, qui rapportera ses paroles, je crois qu'ils sont touchés au cœur. Alors ça, c'est aussi la victoire.
Enfin, vous avez fait l'expérience que la véritable liberté, c'était la vie.
Ah oui, et la dignité.
Et la vie a toujours le dernier mot.
En effet, si elle, quand elle se vit dans la dignité et la liberté.
Alors, quelqu'un revient et parle, et c'est vous, Charlotte Delbault, qui avez parlé, mais vous pouvez maintenant situer où sont les héros, les demi-dieux, puis les autres. Alors, dans ce monde d'aujourd'hui, lorsque vous faites des comparaisons...
Oh, mais je n'en fais pas. Je n'en fais pas.
Vous ne voulez pas le dire, mais
je vais pas me livrer au jeu des hiérarchies et des classements. Non, non.
Non, mais je voulais dire par là, l'histoire, et poser cette question, l'histoire peut-elle s'apaiser? Et je crois que c'est une grande question.
C'est une très, très grande question, mais je ne vois pas qu'on puisse répondre qu'elle s'apaisera. Parce qu'alors, non, je n'en vois aucun signe.
Parce que tout de même, écraser la dignité est chose grave, et c'était écraser la dignité.
Exactement.
Et on l'écrase encore, la dignité.
Voilà.
Parce qu'on parle de liberté, mais il faudrait parler également de dignité.
Oui, oui. Alors, je ne vois pas de signe d'apaisement encore, non.
Il y avait une grande question que vous posiez toutes dans les camps. Cette question, c'était pourquoi s'obstiner à vivre?
C'est une question qui demeure sans réponse. On ne peut pas répondre à ça. C'est exactement la même chose que, vous savez, la petite graine qui tombe entre deux pavés dans une cour obscure, puis tout à coup, il pousse une plante ridiculement petite, enfin, qui n'a pas sa vraie taille ni sa vraie couleur, et pourtant, elle s'acharne, elle est là entre ces deux cailloux, et elle pousse. Comment appeler ça?
Mais cette question, vous la posez encore aujourd'hui? Pourquoi s'obstiner à vivre?
Non. On vit parce qu'on vit, c'est aussi bête que ça.
Et lorsqu'on sort de votre théâtre, du théâtre Cyrano qui présente, qui rapportera ses paroles, votre pièce, cette pièce qui raconte un peu de votre vie, on peut se poser cette question, pourquoi s'obstiner à vivre? Le téléspectateur, le spectateur peut
la poser. Je crois qu'il devrait répondre, oui, il faut s'obstiner à vivre. Parce que vivre, c'est lutter, et puisqu'on tient à la dignité et à la liberté, il faut lutter pour l'un et l'autre. Donc vivre.
Merci, Charlotte Delbault.